La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Que Le Corbusier ait été un architecte révolutionnaire ne fait aujourd'hui aucun doute. Mais 54 ans après sa mort, son image est loin d'être stabilisée et son héritage continue de faire débat, que ce soit du côté de l'œuvre comme du côté de la vision du monde. Mais quelle était donc cette utopie qui fondait la pensée du Corbus ? C'est ce que nous allons essayer de voir ici jusqu'à jeudi. Jeudi, où nous parlerons d'un Corbusier dessinateur, puis d'un Corbusier penseur du musée. Ce sera avec Daniel Poli, puis avec Catherine de Smet. La veille mercredi, nous serons intéressés en particulier à son rapport avec l'étranger et à la ville de Chandigarh qu'il a construite en Inde. Enfin demain, nous tâcherons de faire un tour de sa pensée architecturale et picturale. Ce sera en compagnie de Tim Benton. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, pour poser quelques jalons de la vie du Corbu, nous sommes avec vous, François Chalin, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous avez été longtemps producteur de l'émission d'architecture Métropolitain sur France Culture. Vous êtes vous-même architecte et plus encore critique et écrivain d'architecture. Vous avez dirigé la revue L'Architecture d'aujourd'hui et écrit de nombreux livres, dont celui consacré à Le Corbusier. D'abord, sous le titre Un Corbusier. En 2015 aux éditions du Seuil, et puis vous avez ensuite réédité ce livre en juin dernier dans la collection Point Seuil, avec une petite différence.
Oui, c'est moi qui l'ai souhaité, hein. Un Corbusier, j'étais extrêmement content de ce titre.
Ouais, c'est Le Corbusier
maintenant. Mais le Seuil, enfin la collection Point, qui est une filiale du Seuil, voulant l'éditer en poche, préférait avoir une sorte de classique, donc l'appeler Le Corbusier. Il trouvait que c'est plus commode et plus vendeur.
Mais c'est la seule chose qui a changé. Le titre.
Non, il y a eu quelques... J'ai rajouté quelques pages sur quelques points.
En tout cas, la première phrase est toujours la même et elle dit « Ceci n'est pas une biographie, il en existe ». C'est donc un portrait.
C'est un oui. J'ai voulu... Bon, une biographie, c'est obéir à certains genres. C'est un genre un peu canonique. Il faut parler de l'enfance, de l'école, des divers âges de la vie, des influences. Tout ça, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire le portrait nuancé, un peu amoureux. D'un homme.
C'est pas tout à fait ce qu'on ressent à la lecture, mais bon.
Vous n'êtes pas bien lu, vous n'êtes pas tout.
J'ai pas bien.
Non, un peu aussi quand même. C'est un homme que je porte depuis l'enfance. Mm-hmm. Je me suis amusé dans les premières pages du livre à produire une dédicace de Le Corbusier à Monsieur Chalin avec mes encouragements, je sais pas quoi. C'est pas moi, c'est mon père. Mais j'avais un an, je crois, quand il a dédicacé cet ouvrage. Le Corbusier est un homme que nous avons chéri immensément, nous. Architecte.
D'ailleurs, vous avez 2 ou 3 mètres linéaires de votre bibliothèque consacrée au Corbusier.
Plus que ça, j'ai 500 livres ou brochures. Non, mais je n'ai sur d'autres architectes aussi, mais Le Corbusier, c'est une figure que vous avez tutélaire, immense, etc. Puis c'est une figure que j'ai beaucoup aussi fréquentée par son architecture. J'ai beaucoup visité son architecture, j'ai beaucoup dessiné, j'ai couché beaucoup.
Vous racontez que ce n'était pas sans mal d'ailleurs, parce que quand on dort dans les cellules de la tourette, comme vous l'avez fait, qu'on se retourne, on se fait mal aux épaules parce que le crépi est comme ça, un petit peu abrasif.
C'est un peu rêche, et j'espère que ma femme ne m'écoute pas à l'heure qu'il est, parce que nous avons des souvenirs comme ça, d'épaules. Sérieusement amoché par le béton rêche des cellules de Corbusier, de laquelle nous élevons à 2 heures, qu'elles sont réservées à de pieux hommes célibataires. Mais voilà, j'ai un rapport très intense à Le Corbusier, et puis c'est un rapport à Le Corbusier qui était quand même fait chez beaucoup d'entre nous, je ne dirais pas de mensonge, mais d'acceptation de quelque chose, qui était sa face sombre, sa face, d'extrême droite, pour simplifier. Plus son autoritarisme, plus des projets urbains. Un peu scandaleux d'une certaine façon, comme la ville pour 3 millions d'habitants ou le plan pour Paris. Donc c'est un amour qui était tempéré comme beaucoup d'amour, comme l'amour de beaucoup, générations entières pour le communisme par exemple. Les communistes savaient très bien ce qu'il en était des crimes communistes, mais ils les considéraient comme secondaires par rapport à leur cause. Donc ça s'est passé comme ça longtemps pour moi à propos de Le Corbusier. Et puis quand j'ai quitté France Culture, c'était il y a je sais pas, une dizaine d'années, 7-8 ans peut-être, je me suis trouvé un peu disponible. J'ai commencé à écrire pour le journal de Butel qui a disparu assez rapidement, qui s'appelait L'Impossible. Et puis à un moment, sont parues les lettres de Le Corbusier à sa famille. Notamment le premier tome, est-ce le premier ou le second, enfin le second peut-être, qui est les lettres des années 20 et 30. Et là, comme cette famille était plutôt d'extrême droite, notamment sa mère, Le Corbusier, très naïvement, enfin très pas très naïvement, mais nous découvrions de façon, nous, un peu surprise quand même, l'étendue de ces relations avec l'extrême droite. Donc ça m'a, en quelque sorte, incité à faire un effort sur moi-même et à réviser un peu l'idée que je me faisais de cet homme.
Alors on va mettre un peu de suspense dans cette émission, on reviendra sur cet aspect un petit peu plus loin dans l'heure qui vient, mais d'abord il faut quand même si ça n'est pas exactement une biographie que vous avez produite, raconter l'enfance et la naissance et la jeunesse de Le Corbusier.
Mon père pratiquait le culte de la nature. Il a fini ses jours comme président d'honneur du club alpin. Il émaillait les montres parce qu'il avait suivi le métier de son père par un choix tout à fait accidentel et peut-être défaillant quand il avait 13 ans.
Oui, alors il n'a pas voulu recommencer avec vous ce que son père avait fait avec lui. Il vous a laissé libre.
Lui, il n'a jamais voulu. Il nous a laissé libre.
Vous faites allusion à votre frère.
Je fais allusion à mon frère qui était destiné à la musique. Il avait l'audition absolue, etc., etc. On en a fait un violoniste qui a commencé à 8 ans, n'est-ce pas, qui a donné un concert à 11 ans déjà. Et toute l'activité de la famille s'est concentrée sur lui. C'était un type de talent, n'est-ce pas ? Et il l'est toujours. Mais l'attention familiale
s'est détournée de vous. Détournée. Et vous avez été beaucoup plus libre.
Pendant ce temps-là, j'étais maître dans la rue, au quartier, avec les copains. Et j'ai fait mon petit chemin seul.
Le Corbusier interrogé en 1958 par Georges Charansol. Ça, c'est vrai qu'il a fait son petit chemin tout seul, Le Corbusier. François Chalin, c'est un architecte qui ne se laissera jamais dicter sa conduite, qui sera toujours farouchement indépendant.
On ne peut pas dire ça exactement, dans la mesure où il y a eu des maîtres. Il y a eu des maîtres qu'il a vénérés, qui l'ont transformé, et qu'ensuite il a systématiquement assassiné. Ces maîtres, on les connaît notamment par la correspondance intense qu'il a entretenue avec eux. Trois volumes sont parus de correspondance avec trois maîtres. Le premier, c'est Charles Le Platénier, qui est le directeur d'une sorte d'école d'art, une sorte de pré-Bauhaus, un peu dans l'ambiance, on pourrait dire, art nouveau, s'il s'agissait là d'un style, le style sapin propre à cette région de la Chaux-de-Fonds où il était né. Donc il a ce maître formidable qui a pris une quinzaine de ses étudiants et qui a dit: Alain, tu seras le sculpteur, toi tu seras le peintre, toi tu seras l'architecte. Et Le Corbusier, auquel ses parents ne faisaient pas extrêmement confiance, parce qu'on préférait l'aîné, qui était un musicien assez brillant. Le Corbusier est devenu l'architecte, sur ordre, en quelque sorte, sur invitation de son professeur.
Alors que lui n'était pas tellement jeune. Satisfait de ce choix qu'on lui donnait.
Oui, mais quand même, donc il a envoyé ça ou là, en Autriche, en Allemagne, voir des maîtres, faire des rapports sur les arts décoratifs, sur les progrès de la discipline, et il est devenu comme ça assez rapidement l'architecte. Donc c'est un maître très très important, Le Platénier. L'autre maître, c'est Auguste Perret. Auguste Perret, un des inventeurs du béton armé, en tout cas un des principaux théoriciens et metteurs en œuvre du béton armé au début du siècle, chez lequel Le Corbusier s'établit comme collaborateur au tout début du XXe siècle, et qu'ensuite il vomira, vouera aux gémonies, assassinera de façon la plus cruelle qu'il pourra, qui sera son grand rival en quelque sorte. Le Perret, architecte extrêmement constructeur, très assez académique d'une certaine façon, très néoclassique, et Le Corbusier cherchant d'autres modes d'expression. Et puis un autre qu'on connaît maintenant bien par un ouvrage considérable, il doit faire 800 ou 900 pages, qui a édité la même éditrice, enfin le même auteur, qui s'appelle Marie-Jeanne Dumont, qui s'appelle Ritter. Et Ritter est un homme peu connu en France, c'est un écrivain art nouveau, un critique d'art art nouveau, très mitteleuropéen, qui s'éprend Le Corbusier, c'est un homosexuel affiché, qui s'éprend Le Corbusier et qui décide d'en faire un écrivain et d'en faire quelqu'un qu'il va former en quelque sorte, ce qu'il y a de meilleur dans la culture comme ça européenne, mitteleuropéenne des années d'avant 14, et qui l'invitera à faire un grand voyage initiatique qu'il fera avec un camarade jusqu'en Orient, c'est le fameux voyage d'Orient dans lequel Le Corbusier se frottera à d'autres cultures et découvrira notamment les architectures blanches de Turquie ou d'ailleurs.
Mais il reste donc indépendant, in fine, de tous ces gens, puisque tous ces pères-là, finalement...
En cela que c'est un homme qui, très vite, décide qu'il sera un très grand homme. Il écrit, par exemple, à Ritter, il y a dans la société le livre que j'ai écrit est assez ancien, j'en ai plus la mémoire exacte, mais il y a des gens, des moindres, comme aurait dit Simenon, et puis il y a des gens d'élite, je ne risquerai pas à être des moindres. Donc il y a des choses comme ça, c'est un homme qui, très très tôt, décide qu'il sera un très grand homme. Et ça charle à construire sa vie comme on construit une biographie, comme on construit un grand personnage. Et il réussira magnifiquement.
Alors, quel est le milieu social dont est extrait le Corbusier?
C'est un milieu. Bon, il naît à Chaux-de-Fonds, dans une ville qui est une ville horlogère, qui est la principale ville horlogère de Suisse. C'est presque à la frontière française, hein, c'est pas très loin de Besançon. C'est une grosse bourgade qui est essentiellement consacrée à l'horlogerie. Deux types d'horlogerie, deux types de populations d'horlogers, ça ce sera des premiers traumatismes de Corbusier, ça expliquera en partie son antisémitisme. C'est qu'une partie de l'horlogerie traditionnelle qui vient d'un monde de paysans, fabriquant l'hiver des horloges ou des montres, et voit arriver, suite à des mouvements d'émigration, des juifs de la région de Mulhouse, qui là bâtissent à la Chaux-de-Fonds, en rivalité en quelque sorte avec ces familles traditionnelles, l'industrie moderne de la montre. Ce sont les grands fabricants de montres qui subsistent jusqu'à aujourd'hui. Donc un fond très très fort d'antipathie. Empathie est doublée par le fait que ces gens sont les premiers clients de Corbusier. C'est eux qui lui commandent, l'un un cinéma, l'autre des villas superbes, comme la villa Schwab, par exemple. Donc le Corbusier se trouve dans ce rapport très curieux d'hostilité avec ses commanditaires.
Parce que lui est donc le fils d'un émailleur de cadran.
C'est ça, donc un artisan assez riche quand même, puisqu'il leur construira une fastueuse maison. La maison Blanche qu'il leur construit est une très belle maison. Ça les ruinera, mais c'est quand même une très très belle maison. Donc ce sont des artisans riches, des artisans... c'est pas des gens qui travaillent dans une petite boutique à un coin de rue, ce sont des artisans avec une très grande capacité artistique et une très grande ce sont des artisans de haut vol, je dirais.
Donc la Chaux-de-Fonds
ils sont musiciens, ils ont des belles maisons, ils sont
proches de la frontière et d'ailleurs il y a un tropisme français chez Le Corbusier qui sera naturalisé en 1930. On n'a pas dit qu'il était né en 1887. Et il aura toujours revendiqué finalement des ascendances françaises. C'est un peu comme s'il mettait la Suisse un petit peu
ça,
de côté
son,
dans sa biographie.
Côté, beaucoup de jurassiens partagent cette opinion, se veulent français. Beaucoup de jurassiens suisses. Et lui descend d'Albigeois. Donc ils avaient un portrait, il avait le portrait d'un ancêtre, d'un trisaïeul peut-être, dans la maison, un grand portrait de lui, qui se retrouve toujours dans la maison maintenant. Enfin, il a longtemps été au musée de la Chaux-de-Fonds, puis il a été ramené à la maison, d'un certain type dont il ne connaissait pas le nom. En fait, on connaît son nom maintenant, il s'appelle Le Corbésier. Ouais. Un de mes amis a même découvert sa tombe à Gand, récemment. Mais on ne le connaissait pas, on ne le connaissait que par la mémoire orale, donc on pensait qu'il s'appelait Le Corbusier. Mmh. Le Corbusier, un jour, devant, créant la revue L'Esprit Nouveau aux enfants, devait chercher un pseudonyme parce que, enfin, il devait chercher 20 pseudonymes parce qu'il écrivait forcément d'articles, il fallait que tout ça soit écrit sous toutes sortes de noms. Mais surtout, il voulait séparer son nom de peintre Jeanneret de son nom de théoricien ou de critique. Et, aux enfants, lui, prenez le nom de votre mère. Manque de chance, sa mère s'appelait Perret, comme Auguste Perret, que Le Corbusier n'aimait plus. Donc il ne pouvait pas s'appeler Perret. Donc il a choisi ce nom d'ancêtre, qui en plus était assez beau, parce que Le Corbusier avait un air un peu étrange, comme ça, d'oiseau, et ça lui plaisait assez d'évoquer à la fois un chasseur, à la fois un corbeau. Il aura très longtemps comme un animal familier, en quelque sorte, l'idée du corbeau.
En même temps, le corbeau n'est pas un animal très positif, si.
Pour lui, si. Bah, d'abord, c'est un homme des montagnes suisses, c'est de Montracine, tout ça, où il y a des corbeaux essentiellement. Il n'y a pas beaucoup de mésanges dans ce paysage. Et le corbeau est un animal quand même sombre, mais assez puissant, assez intelligent. Je pense. Enfin, il aimait le corbeau à tel point qu'il dessinait des petits corbeaux sur les cartes postales à sa femme, qui disait quoi quoi, il terminait quoi 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 par ses lettres. Enfin, c'était un homme qui s'était un peu identifié au corbeau.
Ouais. Alors, il faut dire aussi qu'il y a du coup une sensibilité un petit peu littéraire. On l'entend rien que dans le choix du pseudonyme chez Le Corbusier, à la Chaux-de-Fonds, à peu près en même temps que lui, était né Blaise Cendrars, à quelques rues
Le Corbusier était né. À quelques jours avant lui, à quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres, je ne me souviens plus de lui, mais ils ne l'ont su que très tard. Ils se sont été assez amis à plusieurs moments, encore que Blaise Cendrars est souvent assez cruellement portraituré, assassiné dans certaines de ses œuvres littéraires, mais ils ont découvert en 51, donc très très tard qu'ils étaient nés côte à côte quasiment.
Mais est-ce qu'il y a une sensibilité justement à la littérature très très forte chez Le Corbusier?
Oui,
qu'on
oui,
va par pouvoir le retrouver finalement.
Peut-être pas par sa famille qui est surtout sensible à la musique, mais par son compagnonnage de pures années avec cet écrivain William Rider, il a été très familier de la littérature. Il avait une bibliothèque assez correcte de littérature et de philosophie de l'époque.
Ouais. Alors est-ce que c'est un autodidacte, Le Corbusier?
Oui, c'est un autodidacte en ça qu'il a fait une petite école d'art dans laquelle les méthodes pédagogiques étaient laissées à l'appréciation de chacun. Enfin, oui, c'est tout à fait. On peut dire que c'est tout à fait un autodidacte en architecture, en littérature aussi, mais autodidacte par les centaines de lettres ou les dizaines de, oui, les centaines peut-être de lettres qu'il a échangées à Critère. Un homme extra, qui est un peu dans une ambiance post-symboliste et qui écrit de façon extrêmement précieuse, là vous devenez un écrivain. En plus, ça deviendra un écrivain de slogans, un écrivain d'un doctrinaire. Enfin, c'est vraiment, oui, on peut dire que c'est un autodidacte.
Donc au départ, on le destine plutôt à travailler justement dans l'artisanat de l'horlogerie. Ça ne l'intéresse
il commence,
pas d'ailleurs, beaucoup.
Il a fait une assez jolie montre en métal repoussé qui est exposée dans le musée. Enfin, il commence ce métier d'artisan.
Mais alors ça ne l'intéresse pas. En même temps, il n'a pas très envie d'être architecte parce qu'il trouve que les maisons qu'on construit à La Chaux-de-Fonds, c'est plutôt pas très beau, même si La Chaux-de-Fonds a été bâtie selon des principes finalement hygiénistes et assez modernes.
Oui, oui.
Et puis, alors qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il arrive finalement à l'architecture?
Ben, par cette injonction que lui donne le peintre Les Patainiers de s'intéresser, au nom de ce petit groupe d'artistes complets qu'il voulait constituer, de s'intéresser, lui, à l'architecture.
Et il va commencer à construire, alors à quel moment et comment?
Il construit, c'est un petit peu compliqué à dire, parce qu'il participe à des chantiers, il participe à la construction de quelques maisons qui sont de style, encore une fois, de style sapin, c'est-à-dire que c'est une espèce d'art nouveau, à base de pommes de pin, choses comme ça, ça ressemble à des chalets. Donc il y a toute une œuvre de Corbusier, faite très jeune, je peux pas vous dire quel âge, parce que j'en ai perdu la mémoire, mais peut-être à 18 ans.
Déjà à 17 ans, il décore en tout cas des villas.
Il décore des villas, il commence à faire des choses de ce temps, assez jeune, et puis... Et puis rapidement, il quitte La Chaux-de-Fonds parce qu'il étouffe d'une certaine façon, après avoir construit des œuvres d'ailleurs assez importantes. Le village Schwab est une très belle œuvre, mais encore d'un goût classique, d'un goût. Et il va chez Perret, puis rapidement, il va se trouver, surtout après la guerre de 14, devenir des phares des nouvelles doctrines.
Je suis débarqué à Paris en 1908, j'avais plus un sou, à peu près.
Et vous aviez 21 ans?
Oui, peut-être. Et alors, je me trouvais perdu. J'entendais bien des bruits de fourchettes derrière les portes. Mais moi, je ne savais pas que faire et je ne savais pas où aller. Je ne connaissais personne dans Paris. Pas de référence, pas de rien. Alors, un jour, par hasard, je vois le bottin d'artiste. Je l'ouvre et je vois un nom, Eugène Grasset, qui avait fait des planches, une réforme d'art décoratif assez importante qui nous avait impressionnés dans mon école d'art. Alors là, je feuillette. Je trouve son adresse, je dis je vais le voir, je lui dis j'arrive, je prends mon cartable contenant mes dessins d'Italie. Il me refoule en me disant j'ai pas le temps. Je mets le pied entre la porte et le chambranle. Je dis je veux vous voir tout de même. Alors je pousse la porte, j'entre dedans, j'ouvre mon cartable, il s'arrête pile, il dit ah bah, allez asseyez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Il regarde ça et il le regarde avec un très vif intérêt, n'est-ce pas? Très vif, et il me dit, c'est bien. Il m'a dit, il y a des gens qui s'appellent les frères Perret, qui mettent du béton dans des caisses en bois avec du fer, et puis ça tient, c'était pas tant, paraît-il. Alors je suis allé voir Auguste Perret, qui, avec le coup du cartable et des dessins d'Italie, il m'a engagé du coup.
Il avait quel âge, Auguste Perret?
Ah, qu'est-ce qu'il avait? 35 ans. Il disait, avec une voix de clairon, moi je fais du béton armé. Bon, c'est une proclamation telle qu'il lui valait la haine des architectes et confrères, et d'être accusé de n'être pas architecte, n'avoir pas le droit de prétendre à ce titre.
La Compagnie des œuvres sur France Culture, nous parlons du Corbusier avec vous, François Chalin. Ce passage chez Perret en 1908, avant de passer chez Peter Behrens, qu'est-ce que ça va lui apporter? Qu'est-ce qu'il apprend? Comment se fait finalement cette entrée dans les agences d'architecture avant de lui-même se mettre à son compte?
Bah, je pense qu'il apprend déjà ce qu'est construire vraiment avec des matériaux modernes, avec le béton armé. Encore que le mode de construction de Perret soit très loin du mode de construction que le Corbusier mettra en œuvre lui-même très rapidement. C'est que les maisons blanches de Corbusier sont extrêmement mal construites. Ce sont des maisons fragiles, très minces, dans lesquelles le rapport entre les éléments porteurs et les éléments d'enveloppe, etc., se fissure, se désarde.
C'est pas un bon ingénieur?
C'est pas que ce soit un bon ingénieur. À la fin de sa vie, il construit magnifiquement et de façon très solide. L'unité de la cité de
Marseille
debout,
hein.
Est parfaitement intacte, à peu de choses près.
Oui, mais la ville de la Savoie a quand même toujours eu des problèmes.
La ville de Savoie a été refaite plusieurs fois. Et d'autres œuvres ont été carrément sa première œuvre, qui s'appelle la Villa Kerkaré, la région parisienne, pas loin de Versailles, est une maison tellement... Il faut vraiment être un spécialiste de Le Corbusier pour y retrouver un trait de Le Corbusier dans le bâtiment qu'on voit maintenant. Et parce que rapidement, tout ça s'est fissuré. Mais ça s'est fissuré aussi parce qu'on employait des techniques nouvelles et parce qu'on cherchait une gamme d'expressions et d'esthétique et spatiale nouvelle. C'est-à-dire qu'on voulait construire des choses qui n'auraient plus la matérialité, l'ordre des ossatures, des puissantes qu'il y a encore chez Auguste Perret, les colonnades, on voulait une architecture, on dirait aujourd'hui matérielle, ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais c'était quand même un peu une illusion d'immatérialité qu'on cherchait dans ces maisons blanches, très transparentes, très légères, très plates.
Alors durant toute cette période qui va de la guerre à finalement le début des années 20, on a l'impression qu'il reste un petit peu en dehors de l'histoire qui se fait, puisque bon, lui, il est suisse, donc il n'a pas à aller à la guerre. Il faut dire aussi qu'il est borgne, ou à peu près.
Il a été borgne un peu, oui.
Mais quand même, cette période va avoir sur lui probablement des répercussions, et notamment les destructions dans l'est de la France, va lui donner peut-être l'idée de réfléchir sur des manières de construire, de reconstruire finalement la France rapidement.
Oui, mais enfin, en même temps, il n'est pas dans les milieux qui vont construire. D'abord, la France est largement détruite. Enfin, une bonne partie de l'Est et du Nord de la France est largement détruite. Donc, c'est des chantiers immenses qui vont s'ouvrir pendant plusieurs années. Mais je crois qu'il n'hérite d'aucune commande de cet ordre.
Il n'hérite d'aucune commande, mais est-ce que ce n'est pas de là que viennent les concepts dont on pourrait parler maintenant, comme celui de domino, qui consiste finalement en des maisons qui sont déjà des préfigurations de ce que
c'est
le Corbusier va faire.
Le domino, c'est une ossature, un petit escalier de béton armé, une dalle, une dalle de plafond et, voilà. et quatre poteaux ou quelques poteaux. Donc c'est un squelette. Les maisons domino, c'est l'idée d'une
construction. Il y a déjà quand même l'idée, les idées de Le Corbusier un petit peu dans ce concept domino.
Ah ben, complètement, oui. C'est une de ses inventions très, très spectaculaires et très, très, très.
Qu'est-ce
très
qui est marquant. Spectaculaire?
Mais ce qui est très spectaculaire, c'est de réduire l'architecture à une dalle de sol, une dalle de plafond et quatre poteaux. Ça correspond peu à ce qu'on enseignait à l'école des Beaux-Arts. Ça correspondait peu au mode traditionnel de construire, qui était une construction avec laquelle on accumulait des pierres, des charpentes, des tuiles, etc.
Parce qu'on n'a plus besoin de murs porteurs sur la façade, par
on
exemple.
A plus besoin de
donc
murs
on fait
porteurs.
Ce qu'on veut avec la façade.
Donc on avance, plus tard il appellera les cinq points de l'architecture. L'architecture moderne serait faite de piliers, enfin de poteaux, d'un toit terrasse, qui serait éventuellement un jardin, d'une façade libre, puisqu'elle n'est plus porteuse, donc on dessine ce qu'on veut en façade, on peut mettre des fenêtres horizontales, alors qu'autrefois, on mettait des fenêtres plutôt verticales pour des raisons que vous comprendrez, un linteau ne doit pas être très épais, et puis à l'intérieur, un plan, lui également, libre, indépendant de la structure.
Donc très jeune, ou assez jeune, avant ses 30 ans, finalement, il y a déjà une force conceptuelle très importante.
Ah, une force conceptuelle prodigieuse, et surtout, ce sont des idées que partagent peut-être d'autres, à Moscou, par exemple, où il y a tout un courant qui se développe très, très puissant et très remarquable, ou en Allemagne, ou aux Pays-Bas. Mais ce qui fait sa force, c'est une volonté constamment d'élaborer des manifestes, de trouver des slogans, de trouver des formules extrêmement formidables pour exprimer ses idées.
Donc il y a un côté publiciste aussi chez lui.
Il y a un côté publiciste, oui, qui ensuite se doublera en plus d'un remarquable graphiste, donc aidé par un Suisse qui prendra à côté de lui. Il sera un très très bon graphiste d'ouvrages très très beaux.
On finit par se demander, finalement, Le Corbusier, c'est un architecte, mais c'est un graphiste, mais c'est un peintre. Alors, ça va devenir un ingénieur. Bon, on a dit pas trop au début.
C'est un écrivain. C'est un polémiste de radio, parfois très touchant. On peut dire que c'est un artiste à peu près complet, mais c'est pas le seul dans l'histoire. Il y a eu quelquefois, Viollet-le-Duc du même registre, Charles Garnier un peu, à l'étranger, Gottfried Semper. Enfin, il y a dans l'histoire, dans chaque siècle, deux ou trois figures comme ça, de géants, je dirais.
Alors c'est justement à cette époque-là, l'arrivée à Paris, il a une trentaine d'années, qu'il crée la revue L'Esprit Nouveau avec le peintre Amédée aux enfants. Donc à cette époque-là, il n'est pas évident qu'il sera célèbre comme architecte. Il sait qu'il veut être un grand homme, mais peut-être le sera-t-il dans le domaine de la peinture.
Il a commencé vers 17-18 à faire de la peinture. Ils ont tenté de supplanter les cubistes les désignant comme des sortes de baroques attardés et correspondant à un âge tout à fait démodé. Et ils inventent un genre de peinture qui s'appelle purisme, qui est une peinture en quelque sorte très échafaudée, très structurée, très simple,
c'est
un peu minimale.
C'est une sorte de cubisme ?
Ça se veut en opposition au cubisme. C'est pourquoi Picasso ne supportera jamais la personnalité de Le Corbusier. C'est parce qu'en plus, dans le catalogue, il déclare que Picasso et tout ce monde est un monde complètement désuet. Picasso a 7 ans de plus que lui, à peine. C'est donc une rivalité presque générationnelle. Mais c'est quand même un cadet. Et ce cadet décide que le cubisme n'a plus lieu d'être et qu'il faut maintenant passer à une peinture beaucoup plus calme, beaucoup plus structurée, beaucoup plus architecturée, on dirait.
Et pourtant, il se revendiquera, Le Corbusier, comme un ami de Picasso.
Non, oui, il sera un peu...
Enfin, il cherchera.
Il était aussi un ami d'Einstein. Toute personne qui l'approche devient son l'admire et lui témoigne une admiration prétendument. Mais sur Picasso, il n'y a strictement rien. Picasso n'aimait pas du tout. Il y a une photo de la visite du chantier de la Cité Radieuse quand il s'achève à Marseille, 51, je crois, dans laquelle on les voit tous les deux en bras de chemise, sympathiser, visiter la chose. Mais Le Corbusier, Picasso a toujours snobé Le Corbusier et n'a pas du tout aimé.
Alors il travaille avec son cousin, Pierre Jeanneret.
Oui.
C'est important de le dire quand même.
C'est important de le dire pour plusieurs raisons. D'abord parce que Pierre Jeanneret est une figure pour le moment assez mal connue. Ses archives ont été déposées il y a quelques années au Canada, mais elles sont peu exploitées. C'est un cousin qui est assez... Au début, l'agence porte leurs deux noms. Les premières publications qui paraissent, les premiers ouvrages, portent leurs deux noms. Et puis rapidement, Le Corbusier fait place nette. En quelque sorte, il met son cousin un peu sur la touche.
Il fera toujours un petit peu ça d'ailleurs.
Il fera ça un peu avec tout le monde. Il fait ça avec Charlotte Perriand, il fait ça avec beaucoup... Et d'autant que Jeanneret, au moment du Front Populaire, est de gauche, qu'au moment de la résistance, il sera résistant à Grenoble. Donc il y a des choses entre eux qui sont assez... qui passent mal. Après la guerre, ça se passera mieux, parce que Jeanneret ira à Chandigarh diriger les grands projets d'Inde, et les rapports seront plus courtois, je dirais.
Il y a eu en 1922, Temporal est venu me demander au nom du Salon d'automne de participer à l'exposition d'urbanisme. C'était la première exposition d'urbanisme en France. Et alors, je lui dis, qu'est-ce que l'urbanisme? Eh bien, l'urbanisme, c'est la rue, c'est les boutiques, les devantures, les enseignes, tout au plus, on peut même admettre que c'est le corridor qui va jusqu'à la cage d'escalier, le pommeau de la cage d'escalier dans la maison.
C'est tout ce qui est extérieur à la maison.
Oui. Alors je lui dis, bon, ben moi je vais vous faire une fontaine, une grande fontaine monumentale, et derrière j'aurai une ville de 3 millions d'habitants. Et la petite blague que je lui ai jouée, c'est que j'ai pas fait la fontaine, mais j'ai fait l'étude théorique d'une ville contemporaine de 3 millions d'habitants, n'est-ce pas ? Une étude complètement coordonnée et fondamentale, dont toutes les bases sont valables, même aujourd'hui, dans l'urbanisme des temps modernes, dans toutes les villes. Et c'est alors là que j'ai été connu complètement.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors après le temps des villas, François Chalin, viendra le temps des projets urbains. On va de plus en plus à l'extérieur de la maison et on s'intéresse
après,
à la ville.
Après, c'est même antérieur à la plupart des villas. La ville de 3 millions d'habitants et le plan voisin pour Paris sont...
Donc ce sont des concepts, ce sont des idées.
Ce sont des projets qui sont absolument stupéfiants parce que il s'agit de ce qu'on appellera ensuite la table rase. C'est-à-dire que d'une ville ou d'un paysage, on fait table rase, sauf s'il y a une puissance géographique particulière. Par exemple, à Alger, il y a des immeubles qui sinuent comme d'immenses sculptures entre les immeubles.
Enfin, ça reste quand même de très très gros immeubles.
Pour Rio aussi, là, c'est de très gros immeubles, mais c'est des immeubles couronnés d'autoroutes qui circulent dans les paysages. Des choses tout à fait extraordinaires, des espèces d'utopie ou de dystopie, comme on voudra. En revanche, le projet pour Paris, par exemple, qui est le plus stupéfiant, il appelle ça une plaque, lui. Donc, dans le Paris central, disons à peu près de la Bastille jusque vers le bout des Tuileries, il établit une grande plaque, il détruit strictement toute la ville, il construit...
Alors il dit qu'il détruit seulement les taudis.
Non, il détruit absolument tout, il garde Notre-Dame, la tour Saint-Jacques, un certain nombre de choses comme ça, il détruit à peu près tout, et il y établit ce qu'il appelle des gratte-ciels cartésiens, qui sont de grands gratte-ciels en forme de croix, qu'il établit de façon rationnelle, avec peut-être au fond... Mais sans, ce n'est pas encore un urbanisme fonctionnaliste, bizarrement, parce que l'urbanisme fonctionnaliste existe déjà, notamment sous les projets du grand urbaniste Tony Garnier à Lyon, qui lui décrit attentivement une ville entière dans laquelle il y a usine, port, école. Là, c'est une sorte de, c'est un univers abstrait de gratte-ciel régulier, ils les appellent cartésiens pour ça, identiques, qui se répandent sur le territoire.
Donc ils cherchent.
Mais qui ne déclinent pas d'une autre façon.
Ils cherchent à construire, par exemple, son plan voisin, ou est-ce qu'on est juste là dans la théorie?
Je pense qu'ils cherchent. Ils cherchent
à choquer.
Ils cherchent à attirer l'attention, ils cherchent quand même à. Je pense que cette génération croit quand même absolument que la ville est une chose impossible à démêler. C'est l'époque dans laquelle Vienne étouffe, Berlin étouffe, la plupart des villes sont dans un état de d'hygiène déplorable, la famine règne, ou en tout cas la vétusté, les maladies. Et on est dans une époque dans laquelle on croit que un certain radicalisme permettra d'accéder à une ville plus rationnelle. C'est ce qui se fera ensuite sur le mode du grand ensemble en France et dans d'autres pays. Mais ça en est une sorte de préfiguration.
Alors cette ville plus rationnelle, elle implique de diviser en zones fonctionnelles les différentes activités humaines. On travaille ici, on vit là, ensuite il y a l'endroit pour les loisirs. Donc c'est cette idée-là de la zone finalement appliquée à une activité.
C'est cette idée-là, et puis chez le Corbusier de plus, notamment après la guerre, l'idée que l'immeuble va devenir comme un grand paquebot, comme un grand vaisseau, qu'on va loger là 400-500 familles, 1000 habitants, 1500 habitants, 2000 habitants, que ces gens vivront comme une sorte de village vertical dressé sur des pilotis, et que là-dedans ils trouveront tout, école, club, rue marchande, boulanger, etc. Et que ces immeubles seront perdu jusqu'à 10, 15, 20, il a fait des plans dans lesquels il y avait, je crois, 25 pour la région de Marseille, perdu dans un océan de verdure, de terrains de sport et de lieux d'hygiène.
Donc il va beaucoup écrire, finalement, il va presque autant publier de livres qu'il va faire de
bâtiments. À peu près autant de livres que de bâtiments.
Environ 70, c'est ça? Oui, oui. Donc il y a la ville contemporaine pour 3 millions d'habitants, le fameux plan voisin dont on parlait, la ville radieuse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quels sont les livres vraiment marquants?
Mais ça, ce ne sont pas des livres. Hein. Enfin, les livres marquants, ce sont... Il y a toutes sortes. Il y a des ouvrages de poésie. Poésie sur Alger, c'est un très bel ouvrage lithographique de dessins et de sortes de poèmes calligraphiés. Il y a des livres qui traitent de l'organisation générale du territoire, il y a des livres qui traitent de la circulation, il y a énormément d'ouvrages qui paraissent. C'est aussi un grand compilateur, un homme qui est très capable de prendre sous son aile des choses qui sont parues, des travaux d'ingénieurs, des travaux d'hygiénistes, des travaux de médecins, et d'en faire une sorte de synthèse approprié à ce qu'il appelle à l'âge de la mécanisation, à l'âge moderne.
Alors vous dites dans votre livre qu'il y a une morale, finalement, chez Le Corbusier, qu'on peut résumer comme ça. Dans la vie, il faut faire. Voilà, faire.
J'ai écrit ça?
Oui.
Oui, j'ai écrit il y a longtemps, je me souviens. Oui, alors c'est un homme qui, en tout cas, a beaucoup fait. Il a fait, il a pensé, il a fait dans tous les genres, puisqu'il se voulait peintre. Ça n'a pas été un grand peintre, en fait, on peut penser que c'est même un assez mauvais peintre. C'est un meilleur graphiste, peut-être que peintre, c'est un bon dessinateur, en revanche. Mais il consacrait toutes ses matinées à peindre, il a peint plusieurs centaines de toiles. Donc c'est un homme qui avait une activité de protée. Enfin, c'est un homme comme Viollet-le-Duc, comme peut-être Michel-Ange, comme des gens comme ça, qui avait une très très grande capacité à produire dans des champs divers.
Alors, est-ce qu'on peut tenter une psychologie de Le Corbusier? Vous ne le faites pas directement dans votre livre, François Chalin, mais vous le laissez à Gaston Bardet, qui est donc
ça, c'est une psychanalyse. Bardet a essayé de faire une psychanalyse de Le Corbusier.
Voilà. Et alors, il voit dans ses bâtiments un certain nombre de choses. Il voit de l'égoïsme. Mmh. J'aimerais vous faire commenter ça, l'égoïsme.
Il voit l'égoïsme, c'est-à-dire que... Je peux pas parler à la place de Bardet qui a écrit un article dans une revue absolument inconnue il y a extrêmement longtemps.
Mais vous pouvez dire que vous n'en voyez pas, par exemple.
C'est un homme totalement auto-centré. En même temps, c'est un homme d'une certaine...
Parlez de lui à la troisième personne.
Il parlait de lui à la troisième personne, il a pris un pseudonyme, il a distingué les lettres qu'il appelait lettres de chair et lettres de pensée, lettres d'activité. Oui, on peut dire que c'est un être égoïste, tous les gens qui l'ont fréquenté en témoignent. C'est un être autoritaire, mais c'est un être qui leur apportait en même temps tant d'émotions. La plupart des grands architectes du XXe siècle, enfin dans beaucoup de pays d'Europe, ont été ses collaborateurs, que ce soit au Japon, que ce soit en Colombie, que ce soit... Les gens veulent se précipiter chez lui pour voir cette espèce de dieu vivant agir.
Alors il parle aussi, je vous le soumets toujours, du replié et du refoulé. Est-ce que vous voyez du refoulé chez Le Corbusier?
Le Corbusier est un, incontestablement à refouler. D'abord, c'est un homme à la sexualité qu'on commence à connaître par certaines lettres sous un témoignage assez difficile.
Tardif déjà.
Tardif, difficile, mal assumé, n'ayant pas de goût pour ça. Il l'a écrit, il n'a pas de goût pour ça, hein, pas beaucoup de goût pour ça. À certains moments, pourtant, il dessine des dessins de femmes nues, notamment dans des bordels d'Alger, qui sont magnifiques de plénitude, qui témoignent d'un goût pour la chair, quand même, en tout cas dessiné. Mais c'est un garçon refoulé à beaucoup d'égards. Il l'exprime lui-même, d'ailleurs, que beaucoup de... Il veut être un homme qui construit sa vie, qui construit une œuvre, qui construit une pensée, qui construit un univers. La sexualité, pour lui, est éventuellement une hygiène et à peine.
Alors sa femme, c'est peut-être le moment d'en parler. Justement.
Sa femme est une dame assez curieuse. C'est la fille d'un jardinier de Monaco, du Palais Royal de Monaco. Une fille du peuple, on dirait, très une Marseillaise en plus. C'était un très joli mannequin. Elle travaillait dans la boutique Jove, qui était la boutique qui appartenait plus ou moins aux enfants. Et il l'a connue là. Il a mis beaucoup de temps à la présenter à sa famille. Il ne l'a presque jamais emmenée. Il n'a jamais fêté un seul Noël avec elle. Il ne l'a jamais emmenée dans aucune réunion familiale.
Donc c'est une femme avant tout abandonnée.
C'est une femme.
Et qui va en souffrir
c'est
beaucoup.
Il a décrit toujours comme un petit oiseau, un petit animal blessé. De fait, rapidement, elle deviendra un petit oiseau blessé. Elle est alcoolique. C'est une femme drôle, une femme un peu agressive. On la connaît par pas mal de témoignages de gens qui ont été très surpris de leur relation. Certains vont dîner chez Le Corbusier, voient une domestique qui sert à table, tout ça. Et puis qui m'a dit « Oh, vous m'emmerdez avec votre architecture !» Et puis s'aperçoit que c'est sa femme. Donc c'est une femme, mais que les gens ont beaucoup aimé. Elle avait une espèce de caractère très, très, très naturel, très endeuillé par la maladie, par l'alcoolisme, par ces choses-là, mais il l'a protégée comme un enfant, il l'a décrite toujours comme un enfant. Quand il lui offre de l'argent, alors même, avant même qu'il soit marié, cet argent il le met sur un compte en banque auquel elle n'a pas droit d'accéder.
Ça nous dit quelque chose sur la personnalité de Le Corbusier, ça ?
C'est en tout cas extrêmement directif, oui, extrêmement directif. Et en même temps, pas tellement dans les lettres qu'il lui écrit, qui sont assez simples et ça, sans grand intérêt. Il faut dire que la correspondance a été détruite, les anciennes. Donc, il n'y a plus que des résidus de leur correspondance. Donc, on n'a peut-être pas le meilleur, le plus amoureux et le plus chaleureux. Mais quand il en parle à d'autres, par exemple à ses parents, ouais, on sent qu'elle n'intéresse que comme... comme quelqu'un d'un tout petit peu qu'il faut aider à vivre, quoi, un peu.
Et pourtant, à sa mort...
Elle était peut-être très fragile, je ne sais pas.
En 1957, elle va être incinérée, et là, Le Corbusier fait ce geste un peu fou.
On raconte ça. On raconte que quand elle a été incinérée, il était resté une vertèbre cervicale, un peu brûlée, mais pas entièrement brûlée, et que jusqu'à sa mort, il l'a portée dans sa poche. Ce qui est un geste quand même assez étonnant, d'amour un peu panthéiste, d'une certaine façon, c'est quelque chose de tout à fait... Enfin, moi, je trouvais ça très, très bouleversant, quand même.
Heures sur France Culture. Alors, il faut en venir, François Chalin, au sujet qui fâche, sujet auquel vous consacrez de très nombreuses pages de votre livre sur Le Corbusier. Et vous posez d'ailleurs la question, comme ça, un peu l'air de rien, au début d'un chapitre. Mais au fait, Le Corbusier était-il fasciste ?
Alors, c'est un sujet qui fâche et qui me fâche aussi de devoir constamment aborder, parce qu'à vrai dire, c'est quand même une part du portrait que j'ai consacré à Le Corbusier, et ça a suscité tellement de campagnes, à la fois de défense de Corbusier et d'attaque de Corbusier, que j'en suis sorti complètement lessivé. C'était une épreuve très douloureuse pour moi que la parution de ce livre et la façon dont ce que j'exprimais, ce que je sortais de terre, en quelque sorte, était reçu. Le Corbusier, c'est un homme d'abord de l'après-guerre de 14. L'après-guerre de 14, le milieu architectural est extrêmement travaillé par des questions qui sont le régionalisme, qui sont le nationalisme, qui sont la volonté de revanche de générations entières d'architectes qui ont vu leur vie bousillée parce qu'ils avaient 18 ans ou parce qu'ils avaient 30 ans et qu'ils étaient au front ou ceci, cela. C'est une époque très très dure en termes...
Ce n'est pas son cas à lui.
Ce n'est pas son cas à lui, mais il en a souffert aussi. Il dit « Nous sommes les eunuques, nous qui ne combattons pas.
Mm-hmm. » Donc, les anciens combattants avaient d'autres choses
à dire. C'est aussi une époque dans laquelle, comme on le sait aujourd'hui, toutes les questions du parlementarisme, de la franc-maçonnerie occupent une place considérable dans les débats, et dans lesquels un certain nombre de gens, face à un monde qu'ils sentent s'écrouler, que ce soit à Moscou ou de Saoula, pensent à des solutions radicales. Dans le début, d'ailleurs, le fascisme de Mussolini ressemble beaucoup au communisme. Les gens, enfin, certains types de socialisme. Donc, il y a cette espèce de confusion et cette désir chez beaucoup de gens d'adhérer, d'accéder à un monde nouveau, plus juste et plus rationnel.
D'ailleurs, lui-même raconte dans ses lettres qu'il est courtisé un petit peu à la fois par les communistes, mais aussi par l'extrême droite.
Ça, c'est comme ça dans une lettre à une mécène suisse, Mme de Mandreau. Il dit, vous voyez, quand on mélange les couleurs, ça fait du blanc. C'est une lettre qu'il écrit à une personne. Dans d'autres lettres qu'il écrit à d'autres gens, c'est pas tout à fait le même ton. Mais en effet, très souvent, Le Corbusier affiche une volonté de ne pas se mêler directement de politique. C'est-à-dire qu'il va à Moscou, il construit à Moscou le Centre Soyouz, il fait des choses diverses, ça ou là, il essaye de courtiser beaucoup Mussolini, il pense que Mussolini va le nommer en quelque sorte le père de l'architecture italienne, et donc mais il aime les régimes autoritaires, il aime les régimes puissants, il se réjouit très fortement des émeutes de février 34, il participe à des groupes qui, eux, sont nettement des groupes fascistes, puisque ses amis les plus proches, les gens avec qui fait ces trois revues successives, sont parmi les créateurs en 25 du Faisceau et en 28 du Parti fasciste révolutionnaire. Son groupe d'amis le plus intime, ce sont des fascistes français, au sens de 25 ou au sens de 28, qui ensuite, dans les années 33-34, ne se réclameront plus du fascisme pour des raisons diverses, qui sont notamment le fait que Mussolini commence à inquiéter la France et qu'il y a des questions qui se posent. D'abord, les excès de Mussolini commencent à toucher une partie des extrêmes droites françaises de façon négative, et plus personne ne se réclame du fascisme en France, sauf Bucard et deux ou trois groupes.
Mais qu'est-ce qu'il attire dans le fascisme? Est-ce que c'est l'idée, parce que lui, il est avant tout architecte, est-ce que c'est l'idée que dans un régime fort, on va pouvoir finalement construire des villes comme il faudrait les construire, un côté un petit peu technocratique, autoritaire?
C'est l'autorité. Il inscrit le mot, il dédie à l'autorité son ouvrage sur la ville. À l'autorité. Ce qu'il veut, c'est un régime autoritaire, capable de faire régner l'ordre, de faire que ne s'affrontent plus les intérêts d'argent. Il est obsédé par les intérêts d'argent. C'est ce qui, son antisémitisme relatif nourrit aussi un peu, bien sûr. Et c'est aussi l'idée que le monde entier est à réorganiser. Il trouve à un moment, il y a des phrases assez malheureuses qui n'ont pas grand sens, mais il trouve par exemple que si Hitler réussissait, il y a une chose qui pourrait être positive, c'est qu'il réordonne une Europe plus rationnelle. Oui, il y a des choses comme ça. La rationalité va à la fois de l'aménagement des grands territoires jusqu'au logis.
Donc c'est façon. Régir la vie par la technique aussi.
C'est régir la vie par la technique, par la suppression de la rue, la suppression du taudis, la suppression du café, de la promiscuité, par l'hygiène, par le sport, par des choses, des valeurs qui sont en gros les valeurs d'une partie du fascisme. D'ailleurs, c'est le fascisme aussi, c'est les gens du Faisceau ou les gens du Parti fasciste révolutionnaire comme Winter qui vont vers lui, qui trouvent en lui l'homme qui exprime magnifiquement ce à quoi eux rêvent.
Est-ce que son architecture...
Je dis bien en 25, hein, je dis pas en plus tard, ouais. C'est autre chose.
Est-ce que son architecture, dans sa forme, dans sa verticalité, ou dans sa grande horizontalité, enfin en tout cas dans son côté très massif, très imposant, est-ce que vous trouvez qu'on peut lui qualifier
de fasciste? La ville pour 3 millions d'habitants ou le plan voisin pour Paris sont des plans d'un extrême autoritarisme, ça c'est sûr. C'est l'autoritarisme de la technique, c'est l'autoritarisme de l'autoroute, c'est l'autoritarisme des échangeurs, c'est l'autoritarisme des immeubles tous semblables, sans aucune prise laissée à la poétique, à l'accident, à l'histoire, etc.
Alors comment ça se traduit pendant la Seconde Guerre mondiale avec Vichy?
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il pense, il espère pouvoir devenir ce qu'il dit une fois ou deux, peut-être avec un peu d'humour, le dictateur de l'urbanisme. Il espère qu'on va reconnaître enfin... Beaucoup de gens pensent que Vichy va être un grand moment de développement de la France. Ça, il faut quand même qu'on se le rappelle. Hein. Beaucoup de jeunes gens qui ensuite seront les cadres du gaullisme et de la libération sont inclines à penser que le désastre qu'a connu la France en mai 40 va faire naître un sursaut et que de ce nouvel État qui va naître va naître quelque chose qui sera, en question, on pourrait dire, l'embryon de la technocratie des Trente Glorieuses. Donc lui, il est de ça, il va 18 mois, je crois, à Vichy, il espère, il vit à l'hôtel Carlton, puis au Queens, etc. Il espère accéder à un rôle de pouvoir auquel il n'accédera pas. Aucun n'excellera pas parce que le milieu vichysois est quand même un milieu qui est beaucoup plus dominé qu'il ne pensait par l'académisme et par en architecture, les conceptions traditionnelles de la ville.
Le régionalisme.
Régionalisme et académisme de toutes sortes, oui.
Et pourtant, on
sent qu'il y a pas d'argent pour faire des opérations urbaines en plus.
On sent dans la construction de votre livre, François Chalin, il y a une partie sur le corbeau et puis il y a une partie qui s'appelle le fada, que finalement, la poésie, elle va arriver au fur et à mesure de sa vie. Bon. Il y a comme une espèce de relativisation de cet autoritarisme au fur et à mesure qu'il prend de l'âge.
J'avais fait un livre, c'est un livre qui avait une ambition littéraire aussi, donc c'est un livre qui n'avait pas de chapitre au début du tout, c'est un flot de paroles coupé en deux, d'un côté corbeau, de l'autre côté fada, c'était pour exposer de façon que j'admets tout à fait caricaturale, et le changement, un changement qui s'opère pendant la guerre, mais de fait, après la guerre, arrive un homme beaucoup plus détendu, dont l'architecture est beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus tactile, beaucoup plus intéressante, et puis après la guerre, il fait des choses comme Ronchamp, ou comme le couvent de la Tourette, et puis il laissera surtout ces grandes cités de Marseille, qui est l'aboutissement de tant d'espoir, de tant de travail, de tant de réflexion au plan plastique, au plan fonctionnel, tout ça, que j'ai voulu me consacrer de la deuxième partie de mon livre, c'est comme presque 300 pages ou 350 pages, à l'étude du succès et des insuccès de ces cités radieuses.
Elle est ouverte, puisque tout est présent, disponible, saisissable, ouverte pour recevoir, ouverte aussi pour que chacun y vienne prendre. Les eaux ruissellent, le soleil illumine, les complexités ont tissé leur trame, les fluides sont partout, les outils dans la main. Les caresses de la main, la vie que l'on goûte par le pétrissement des mains, la vue qui est dans la palpation. Pleine main j'ai reçu, pleine main je donne.
Qu'est-ce que c'est que ce poème de l'angle droit qu'on entendait ici lu par Christophe Lemay?
C'est justement cette expression magnifique, plein de mains, je me reçois, plein de mains, je donne. Ça évoque un peu la fameuse, le pissenlit de Larousse, là, on souffle comme ça à l'infini. C'est vraiment une des plus belles expressions chez Le Corbusier de cette plénitude sensuelle, généreuse, qu'il voudra être sa marque dans les années, à partir des années 50, et qui montre un personnage très très différent de l'homme acharné à bâtir un mode nouveau. Là, il renvoie à une sorte de monde cosmique. Il va vivre partiellement en nudiste au bord de l'eau, dans un cabanon.
Il va se baigner tous les jours, ce qui est d'ailleurs assez dangereux parce qu'il va manquer de perdre une jambe d'une hélice de bateau.
Il va couper une fesse par une hélice de bateau, mais ça c'est déjà dans l'avant-guerre. Enfin, c'est un autre homme qui apparaît, un homme beaucoup plus poétique, beaucoup plus attaché à trouver dans des formes organiques, dans des cailloux, dans des plantes, dans des animaux, des expressions beaucoup plus que l'ancienne obsession du rationalisme qui le travaillait.
Et ça, on le sent peut-être dans sa célèbre chapelle de Ronchamp, où on n'est plus du tout dans les formes orthogonales, on est au contraire dans quelque chose de très sensuel.
Oui, quelque chose de plus sensuel, de plus enveloppant, avec des effets de lumière qui rasent des murs eux-mêmes d'une certaine texture. Enfin, il y a une matérialité. Il y a même une matérialité dans la chose mal faite. Comme le béton armé est très difficile à faire dans l'après-guerre, et que les moules sont assez rustiques, etc. Il avance ce qu'il appelle la poésie mal foutue. Il y a ce qu'on appelle le brutalisme, quelque chose qui a une sorte de matière qui renvoie aussi aux difficultés de la vie, au monde de l'ouvrier, etc.
Vous évoquez la déesse 19, qui est à peu près contemporaine de la chapelle de Ronchamp. Pourquoi c'est une mythologie aussi, la chapelle de Ronchamp, au sens où Barthes l'entendait?
Oui, enfin, la déesse, c'est surtout quand il visite, il y a beaucoup de photos par René Bury, où il visite le couvent de la Tourette en déesse. Donc c'est assez beau de voir sortir déjà assez vieux en grand manteau d'une déesse absolument impeccable, avec la beauté des habits des dominicains, qui à l'époque étaient des grands habits blancs, visitant son chantier brutaliste de béton rugueux. Il y a quelque chose de très beau dans ce contraste.
Nous sommes donc dans cette chambre à coucher. Oui. Bien, elle dégage sur... Elle est à l'étage, et on m'a reproché beaucoup d'avoir fait un étage dans ces appartements. Mais ceux qui me le reprochaient demandent qu'on ne bâtisse pas Marseille pour faire des petites maisons à un étage. Alors nous n'en sortons pas.
Oui, il n'y a pas moyen d'en sortir. Oui. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que je viens de monter cet escalier, derrière M. Le Corbusier, l'escalier intérieur qui est dans chaque appartement, Eh bien, c'est un escalier qui est tout à fait praticable et qui n'est pas...
Il est plus que ça, il est délicieux à monter.
C'est étudié, oui, en effet, c'est vrai, il est agréable à monter,
Il est étudié pour l'amour de l'homme, si je peux m'exprimer ainsi, comme tout ce que l'architecture doit faire devrait être étudié pour l'amour de son prochain et pour lui donner satisfaction et plaisir.
Oui.
Vous avez reconnu là Le Corbusier qui faisait visiter à Frédéric Potcher la cité radieuse de Marseille en 1950. Vous y consacrez donc de nombreuses pages, vous l'avez dit, François Chalin, à cette cité radieuse, à ces cités radieuses. Il y en a quatre en France, une en Allemagne. Est-ce qu'elles sont vraiment radieuses partout?
D'abord, elles n'ont pas toujours été radieuses. Celle de Marseille n'a pas toujours été radieuse parce que les qualités de ce logement qui sont extraordinaires sont aussi des spécificités. Et donc les populations, selon que c'était des populations de jeunes profs ou d'instituteurs, ou des populations de relogés par les dommages de guerre ou d'ouvriers, etc., ne vivaient pas du tout de la même façon les appartements de Le Corbusier. Et puis les autres cités, celle de Nantes-Rezé, qui a été construite par une coopérative, a très bien vécu longtemps parce que les gens avaient choisi leur architecte, le désiraient. Dès lors qu'au bout de quelques années, pour des raisons réglementaires, elle a été intégrée dans un parc de logements sociaux, les choses se sont dégradées, les gens ne voulaient pas qu'on les loge là de façon autoritaire dans cet immeuble de béton. D'autres ont été des catastrophes. Celle de Briey a failli être détruite. Je me souviens d'avoir visité, il y avait dans cette immense carcasse de peut-être 400 logements, il y en avait 30 occupés. Le reste était un terrain de jeu plein de voitures cramées, des choses comme ça. Celle de Firminy a longtemps été coupée en deux. La moitié est enfermée. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Parce
qu'il faut savoir habiter ce genre...
Oui, il a créé la CGT parce qu'à la fin, il s'est rapproché du Parti communiste de la CGT après la guerre. Il a dit, apprenez à vos gens à habiter dans mes...
Alors comment apprend-on à habiter une maison de Le Corbusier?
Ben, c'est difficile parce qu'il faut du volontarisme. Il faut accepter l'idée d'abord qu'on est dans un objet collectif dans lequel les clubs, ça fonctionne. Ils fonctionnent à certaines époques. Ils fonctionnent quand on a que des mobilettes ou des vélos. D'ailleurs, quand on a des voitures, ils ne marchent plus parce que les gens à Rezé vont le dimanche à la plage. Donc, les clubs s'effondrent. Donc, il y a des raisons historiques aussi. Il y a des raisons, par exemple, celle de Briey est longtemps proche d'un aéroport américain. Donc, il y a 80 aviateurs qui habitent là. Donc, c'est la fête constante. Ils font des balles. Ça marche bien. Le truc marche bien. Puis après, ils partent. Puis après, arrivent des ouvriers maghrébins, par exemple. C'est une autre population qui n'a pas choisi d'être là. Enfin, c'est assez compliqué, cette affaire de Le Corbusier. C'est pour ça que c'est un objet sociologique absolument captivant parce que il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de qualité spatiale. Et puis, il y a de terribles déceptions chez une partie de la population et de terribles drames qui s'y nouent.
Est-ce que la question de la taille, en effet du nombre de personnes qui habitent dans ces cités radieuses, ce sont des très grands bâtiments, ne reste pas l'un des points finalement les plus problématiques, les plus difficiles à
non,
faire vivre?
Non, parce que non, ce qui marche mal parfois, c'est la cohabitation de populations très différentes. Mais c'est pas forcément la taille en elle-même. Encore que maintenant, bien sûr, on privilégie souvent les immeubles avec des cages d'escalier séparées, etc. Mais enfin bon, c'est pas forcément le problème. Le problème, c'est aussi que c'est une architecture extrêmement dessinée. Et qu'elle fonctionne très bien à Marseille, qui est un immeuble exceptionnel avec beaucoup d'argent, avec de belles surfaces. Mais d'ailleurs qu'on réduit les surfaces de 2 mètres carrés, ces immeubles deviennent extrêmement prégnant, un peu étouffant. Celui de Rezé parfois est un peu étouffant, celui de Briey aussi. Donc il y a cette question. Et puis il y a la question, c'est une architecture très dessinée, très volontaire. Donc elle ne s'adapte plus aux nouveaux objets. Vous pouvez avoir un frigo, mais vous ne pouvez pas avoir un frigo, plus une télé, plus un congélateur, plus ceci. Tout ce qui fait l'ordinaire aujourd'hui de la vie ne fonctionne plus dans ces objets qui sont de béton armé, d'une structure extrêmement dessinée et contrainte.
Alors Le Corbusier est mort le 27 août 1965. Il s'est noyé. On disait
oui,
c'était l'ancien.
Il s'est noyé parce qu'il était malade. Les dernières, je ne sais pas si vous avez entendu une fois sa dernière interview radio. C'est pathétique. Il ne se souvient plus de rien. Il n'est pas très vieux, mais il ne se souvient plus de rien. Il est très fatigué. Je crois qu'il avait des problèmes cardiaques notamment. Donc il retourne. Est-ce qu'il s'est noyé exprès? Est-ce qu'il s'est noyé par accident? C'est une plage, vous savez, c'est le Rock Martin. Vous nagez dans l'eau chaude et brusquement, vous avez une résurgence glacée. Tous les 7, 8 mètres ou 10 mètres, vous avez donc il a pu mourir de ça. En tout cas, c'est un immense événement que la mort de Corbusier.
Et tout le monde, en effet, va en parler dans le monde entier. Et jusqu'au Brésil, on en parlera cette semaine. Merci beaucoup, François Chalin. Je renvoie à nos auditeurs sur votre livre Le Corbusier, paru en Point Seuil, ainsi que sur Rococo ou Drôle d'Oiseau, aux éditions Non Standard. Et Le Corbusier, Zone d'ombre, chez le même éditeur. Tout de suite, on va prendre des nouvelles des revues.
Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Avec la chronique de Philippe Roger qui vient nous parler de la revue Critique dont il est le directeur. Bonjour à vous Philippe.
Bonjour Mathieu.
Et vous nous proposez une livraison de Critique qui porte le titre Gérard Massé, écrivain et colporteur.
Oui, alors que Gérard Massé soit écrivain, plus de 40 volumes parus depuis 1974 l'attestent. D'ailleurs, est-ce que c'est 40 ou peut-être 50? Le compte n'est pas facile à faire. Car Gérard Massé fait virevolter sa propre bibliographie, en quelque sorte. Ses livres paraissent, disparaissent, reparaissent sous une autre forme, souvent sous un autre titre, un nouveau titre. Donc écrivain, poète, non seulement dans ses recueils de poésie, mais aussi, comme l'écrit Claude Coste, qui a conçu ce numéro pour Critique, poète, je cite, « hors la poésie, par le regard qu'il porte sur le monde », et puis il faut ajouter « photographe », et encore, peut-être surtout, « essayiste », et dans toute la force du terme, parce que s'essayant à parler de ce qu'il aime, la littérature en particulier, il n'hésite pas à reprendre, à réécrire, à rediriger en quelque sorte ses propres essais, qui méritent ainsi pleinement leur nom.
Alors pourquoi colporteur en particulier?
Ah, colporteur, l'image nous vient de Gérard Massé lui-même, il en a fait le titre d'un livre, plutôt de trois livres, colportage 1, colportage 2, colportage 3, ensuite refondu en un unique nouveau volume, colportage tout court si j'ose dire, paru chez Gallimard en 2018. Parfait exemple de cette écriture de la reprise que je viens d'évoquer à l'instant, on pourrait presque dire avec Kierkegaard, de la reprise en avant. Alors le colporteur, c'est l'homme qui marche, hein, c'est l'homme qui court le monde sans se séparer de sa boîte. À l'intérieur de la boîte, des livres encore, des almanachs, des images. Images pas vraiment d'Épinal, dans le cas de Gérard Massé, encore moins des images pieuses, hein, preuve le dernier en date de ses opuscules, qui est un essai sur Sade. Le colporteur, d'ailleurs, cache toujours quelques brochures sulfureuses au fond de sa caisse, hein, parmi les jarretières ou les rubans, et Gérard Massé respecte la tradition. Alors c'est une métaphore riche hein, que celle du colportage. On comprend très bien à lire Gérard Massé qu'il devait l'adopter. Elle désigne une écriture ambulante, mais aussi une pérégrination tranquille. Hein. Rien à voir, me semble-t-il, avec le travel writing, qui garde toujours de ses origines anglo-saxonnes un petit air de passage du Cap Horn ou de conquête de l'Ouest. Il arrive au colporteur Massé d'élargir sa tournée, mais même quand c'est pas le Maine au bout du monde, c'est sans changer d'allure. Sa curiosité n'est ni conquérante ni fébrile. Au Cameroun, comme au Japon, ce promeneur est en quête, je dirais, des sympathies qui nous relient aux autres. D'où, par exemple, ce titre qui peut surprendre, « Kyoto, un monde qui ressemble au nôtre ». C'est un livre paru chez Arléa en 2011. Mais prenons-y garde, ressembler ici, ça n'est pas du tout revenir au même. La ressemblance dont nous parlent les livres de Gérard Massé, c'est celle dont la Renaissance était en quête, celle qu'il faut déchiffrer à travers l'infinie variété du monde, celle qui, au temps de l'humanisme, le vrai, était à la fois inséparable de la curiositas et garante d'une unité de ce monde et du genre humain. Alors, le colporteur est donc l'homme des carrefours, comme Hermès est le dieu des carrefours. Ainsi, de Gérard Massé, une saine méfiance envers l'exotisme l'incite à faire communiquer les mondes et une sereine passion des livres lui permet de faire communiquer ce qu'on appelle le vaste monde, tel qu'il le voit et le photographie, et cet autre monde, non moins vaste, qu'est le monde des bibliothèques. Gérard Massé est un promeneur émerveillé, il nous invite à le suivre. C'est ce que nous avons fait dans ce numéro de Critique. En quelque sorte, nous lui avons emboîté le pas. Postscriptum, vous ne trouverez pas de roman dans la boîte du colporteur Massé. Vous y trouverez une œuvre de savoir et d'imagination et vous tomberez sans doute vite d'accord avec cette petite phrase qu'il a prononcée au cours de l'entretien que nous publions. L'imagination n'est pas l'apanage des romanciers.
Et c'est tout à fait vrai. Gérard Massé, écrivain et colporteur, on peut lire ça dans le numéro 870 de novembre 2019 de la revue Critique. C'était la Compagnie des œuvres, une émission proposée par Anne Vanessa Prévost, Hélène Rivière, Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault et Jacques Ezubert. Demain, nous parlerons encore davantage de l'œuvre architecturale et picturale de Le Corbusier. Ce sera avec Tim Benton, co-auteur avec Jean-Louis Cohen, d'une monographie de l'architecte aux éditions Faïdon.